Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue dans le bulletin d'information de la rédaction française de Radio Prague. Au sommaire ce lundi, les commémorations de l'Holocauste tzigane à Leti, en présence du Premier ministre Petr Nečas, la balance positive du commerce extérieur tchèque et la rencontre entre le nouveau ministre de la Justice, Pavel Blažek, avec le président du ministère public suprême, Pavel Zeman. Présents aux cérémonies qui se sont tenues lundi matin à Leti, en Bohême du Sud, en mémoire des victimes de l'Holocauste rom, le Premier ministre Petr Nečas a déclaré que le gouvernement ne disposait pas de l'argent nécessaire au rachat et à la démolition de la porcherie industrielle qui se trouve à proximité du site de l'ancien camp de concentration. Nous vous en dirons plus sur cette information dans les faits et événements du jour. L'université de Bohême de l'Ouest, située à Plzeň, ne reviendra pas sur les diplômes délivrés dans le cadre d'un supposé système de fraude mis en place à la faculté de droit. Le programme d'études incriminé aurait permis de diplômer des policiers, des pompiers, des agents de douane et du personnel pénitentiaire en apprentissage continu sans que ceux-ci ne suivent l'intégralité de la formation requise. La police anticorruption n'aurait pas trouvé de preuves permettant d'établir avec certitude qu'il y a eu des opérations frauduleuses. Le bilan du commerce extérieur de la République tchèque en mai a affiché un solde positif de 23,1 milliards de couronnes, soit environ 905 millions d'euros, soit un résultat supérieur de 9,6 milliards de couronnes à celui enregistré en mai 2011. Les chiffres ont été communiqués ce lundi par l'Office tchèque des statistiques. Le volume des exportations a progressé de 2,8%, tandis que les importations ont baissé de 1,1%. Par ailleurs, toujours l'Office tchèque des statistiques qui publie ce lundi un autre communiqué concernant les tendances du marché du logement en République tchèque. Pour le deuxième trimestre consécutif, les prix ont augmenté en moyenne de 1,7%. Cependant, cette hausse s'explique principalement par les évolutions du marché à Prague où les prix ont progressé de 4,5% entre début avril et fin juin. Partout ailleurs, les prix ont plutôt baissé en moyenne de 0,8%. Le nouveau ministre de la Justice, Pavel Blažek, rencontrait aujourd'hui Pavel Zeman, le président du ministère public suprême. Ce dernier a réaffirmé sa volonté de nommer Lenka Bradáčová, présidente du ministère public à Prague. Les deux hommes sont également tombés d'accord pour travailler ensemble sur le projet de loi visant à réformer le ministère public. Le nouveau ministère de la Justice ne cachait pourtant pas ses réserves quant à cette réforme, préparée par son prédécesseur Jiří Pospíšil et qui devrait étendre les pouvoirs des représentants du ministère public. La rue Europska, située dans le quartier de Davidce, dans le 6e arrondissement de Prague, et qui mène à l'aéroport depuis le centre-ville, a été fermée à la circulation dimanche après qu'un cratère de 4 mètres sur 5 se soit formé à un carrefour. La route s'est effondrée, aucune victime n'a été recensée, la police a tout de même ouvert une enquête. Selon l'Institut d'archéologie de l'Académie des sciences, un cimetière moyenâgeux datant des premiers Pchémislides serait menacé de destruction. Les autorités pragoises ont en effet répété ne pas avoir l'intention de continuer à subventionner les fouilles archéologiques de cet ensemble situé près du château de Prague, bien que cela soit prévu par la loi. Il resterait de nombreuses cavités à étudier. Le musée tchèque et slovaque de la ville de Cedar Rapids, dans l'état américain de l'Ohio, se prépare à rouvrir ses portes les 14 et 15 juillet prochains. Un week-end de festivités est ainsi organisé. Il s'agit, selon Gail Nowton, le président de l'institution, de célébrer cette renaissance et de se souvenir de tout le travail accompli depuis l'inondation qui a détruit le lieu 4 ans auparavant. Enfin, la météo, lundi, jour de la fête des Drahoslava et Drahoše, c'est un temps un peu plus nuageux que ce week-end, mais toujours largement ensoleillé, qui règne sur la majeure partie du territoire. Les températures varient entre 23 degrés et 29 degrés pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information qui vous était présenté par Pierre Ménian. La suite du programme avec Magdalena Rosinkova.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité de Radio Prague. Merci à Pierre Ménian pour son bulletin d'information. La porcherie industrielle installée à l'emplacement de l'ancien camp de concentration rom de Leti continue d'alimenter la polémique. Une commémoration officielle des victimes rom de l'Holocauste s'est déroulée dans la matinée de ce lundi. Elle a été boycottée par plusieurs associations rom du pays. Nous reviendrons sur ce sujet dans un instant. Vous le savez, le globe de cristal du meilleur meilleur film du festival de Karlovy Vary a été attribué samedi au long métrage norvégien The Almost Man. Dans le cadre du festival a été organisée une grande rétrospective du cinéaste français Jean-Pierre Melville. Nous en parlerons avec le réalisateur Olivier Boller. La seconde partie de notre programme sera consacrée, comme chaque lundi, au sport, plus précisément à l'athlétisme. Au total, environ 5000 Roms tchèques ont été envoyés dans des camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. 90% d'entre eux y ont péri. Ce lundi matin, une commémoration officielle des victimes roms de l'Holocauste s'est déroulée à l'été en Bohême du Sud. La cérémonie a tout de même été boycottée par plusieurs organisations et associations roms qui demandent au gouvernement de supprimer la porcherie industrielle située sur les sites de l'ancien camp. Il y a tout juste 70 ans, le 10 juillet 1942, les autorités nazies donnaient le feu vert à la persécution de la population rome du protectorat de Bohême-Moravie. Cette décision a donné lieu à la mise en place des camps tziganes de Leyte et de Hodonín-Ukunštátu, ce dernier étant destiné aux roms de Moravie. Plus de 1300 personnes ont été internées à Leyte, près de Písek, dans le sud de la Bohême, depuis l'installation du camp en août 1940 jusqu'en mai 1943. Quelques 327 roms y ont péri. Plus de 500 détenus ont été déportés sur ordre d'Heinrich Himmler depuis l'été à Auschwitz. Dans son discours prononcé à l'occasion de la cérémonie de ce lundi, le Premier ministre Petr Nečas a rappelé:
cet acte de piété se déroule à l'emplacement de l'ancien lieu d'enterrement provisoire où reposent plusieurs centaines de Roms. Ces derniers n'ont pas péri dans les chambres à gaz, ils sont morts de la dysenterie, du typhus, de faim et d'épuisement dans des conditions mises en place par les nazis, assistées, ne l'oublions pas, par les autorités et la police du protectorat de Bohême-Moravie, donc par les Tchèques. Ceci est la principale leçon à tirer des événements survenus il y a 70 ans. Il ne faut plus jamais que nos vies soient dominées par des préjugés racistes.
Nikdy nesmíme připustit, aby rasistické bludy opanovaly náš život.
Une autre cérémonie de commémoration organisée, elle, par les descendants des victimes roms de l'Holocauste se tient à l'été chaque année au mois de mai, en présence de plusieurs centaines de personnes. Or, en mai dernier, la chargée des droits de l'homme Monika Šimunková a été la seule représentante du gouvernement à y prendre part. Un malentendu, selon le Premier ministre Petr Nečas, mais qui a suscité une vive critique de la part des associations roms tchèques. Si ces dernières ont été nombreuses à boycotter la cérémonie officielle de ce lundi, c'est aussi et surtout pour dénoncer le fait que l'État n'a toujours pas supprimé la porcherie industrielle installée à l'emplacement même de l'ancien camp sous le régime communiste. Selon le président du comité pour l'indemnisation de l'Holocauste rome et vice-président du parti rome de l'égalité des chances, Zdeněk Růžička, le gouvernement, s'il entend respecter la mémoire des victimes, devrait commencer par démanteler l'édifice. Depuis 2 ans, un mémorial ainsi qu'une exposition permanente en souvenir des victimes existe donc à l'été, à proximité immédiate de la porcherie. Après l'installation de ceci en 2010, Zdeněk Růžička déclarait à Radio Prague:
nous sommes satisfaits dans une certaine mesure seulement, parce que nous savons que la République tchèque n'avait pas d'autre choix que d'accepter qu'un bâtiment digne de ce nom soit installé près de la nécropole. Mais la dignité, eh bien le problème ici, il n'y a pas de dignité tant qu'une porcherie nauséabonde continue de fonctionner à l'endroit même où était le camp. J'ai du mal à imaginer qu'une telle porcherie puisse fonctionner près d'un autre camp, par exemple à Térésine, ça ne pourrait pas exister plus d'une semaine.
À l'issue de la cérémonie qui s'est déroulée ce 9 juillet à l'été, le Premier ministre Petr Nečas a répété ce qu'il avait déjà annoncé il y a 2 ans. Le rachat de la porcherie par les autorités n'est pas à l'ordre du jour, faute d'argent. Dans le cadre du 47e festival du film de Karlovy Vary qui s'est achevé le 7 juillet, était organisée une grande rétrospective du cinéaste français Jean-Pierre Melville, auteur de grands films tels que Le silence de la mer ou L'armée des ombres. Olivier Boller est un jeune réalisateur qui a réalisé un documentaire intitulé Sous le nom de Melville, présenté au festival. Il est revenu sur la découverte de Jean-Pierre Melville au micro d'Anna Kubishta.
Alors, je me souviens du premier film de Jean-Pierre Melville que j'ai vu, et je pense que je devais avoir une dizaine d'années, pas plus. J'avais découvert Le Doulos à la télévision un soir. C'était un film en noir et blanc, donc a priori quelque chose qui ne devrait pas intéresser les enfants de 10 ans. Et je sais que c'est une histoire dont le tragique, surtout, m'avait totalement bouleversé. Arrivé à la fin, j'étais désespéré de ce qui pouvait arriver à ce pauvre Jean-Paul Belmondo. Donc ça m'a marqué profondément. Mais évidemment, je ne savais pas à l'époque qui était Jean-Pierre Melville, sans doute même qui était Belmondo à l'époque. Et c'est que beaucoup plus tard, en revoyant d'autres films de Melville, et en m'intéressant d'un peu plus près à son cinéma, que j'ai fait le lien avec ce film qui m'avait marqué quand j'étais enfant. Donc ça remonte à très longtemps. Et sinon, la redécouverte, en fait, c'était en cherchant un sujet de thèse. En cinéma, un 14 juillet, je peux le dater très précisément.
Puisque... C'est symbolique, hein.
C'est symbolique, et oui, c'est symbolique parce que c'était comme, on va dire quasiment tous les ans à la télévision française, la diffusion de L'Armée des Ombres. Et qui est un peu, une sorte d'emblème national. Et c'est un film que je pense justement les gens ont trop vu à la télévision et qu'on a l'habitude de ne plus regarder dans le sens où il passe et il est là, qui tourne dans le fond et on le regarde plus pour ce qu'il est, on le regarde simplement pour ce qu'il représente d'un point de vue symbolique sur...
parce que c'est un classique donc
parce que c'est un classique, parce qu'il y a Lino Ventura, parce qu'il y a Simone Signoret, voilà. Et en fait tout d'un coup en regardant ce film avec un peu plus d'attention, je me suis rendu compte qu'il était absolument extraordinaire, c'est-à-dire non pas que c'était un film classique, figé, etc., mais qu'il y avait derrière un auteur extrêmement puissant, avec des choix très particuliers, très radicaux, qui normalement devraient faire que ce film n'est pas un film grand public, et qui arrive pourtant, au contraire, à toucher absolument son public, et qui est un film qui a sans doute souffert, évidemment, d'avoir été fait entre 68 et 69, évidemment du poids que pouvait représenter la résistance, le général de Gaulle à l'époque. C'est un film qui a été fait idéologiquement au pire moment pour qu'il soit vu, ou du moins considéré par une critique intellectuelle exigeante, qui existait bel et bien en France à cette époque-là, qui a défendu des films merveilleux, mais qui était absolument pas apte à défendre un tel film à ce moment-là. Donc c'est un film qui a rencontré un succès public immense, comme beaucoup des films de Melville, comme Le Cercle Rouge par exemple, et qui, de la même façon que Le Cercle Rouge l'année suivante, a été balayé par la critique. Et comme Melville est mort très peu de temps après, en 73,
du coup c'est tombé un peu dans les oubliettes.
C'est tombé dans les oubliettes totalement. L'œuvre de Melville est tombée dans les oubliettes. Et là je me suis dit, en voyant L'Armée des Ombres, je me suis dit, mais c'est absolument absurde. Il y a un cinéaste derrière ce film qui, y compris idéologiquement ou moralement, aurait dû toucher cette critique-là. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu que ça pouvait s'adresser aussi à eux, en fait.
Ici, à Carlevaret, il y a une grande rétrospective Melville. C'est important, justement, que Melville soit redécouvert aussi dans des festivals et pas uniquement dans des ciné-clubs ou au cinéma le soir, tard, puisque parfois, malheureusement, ce genre de film ne passe pas à 20h.
Effectivement, alors, l'importance des festivals est capitale pour l'œuvre de Melville, hein, pour beaucoup d'autres cinéastes, mais pour Melville, effectivement, déjà parce qu'une grande partie des films, certains films sont difficiles à voir pour des questions de droit. C'est merveilleux de pouvoir avoir Le Samouraï ici cette année. C'est la première fois depuis très très longtemps qu'il est montré, y compris en France. C'est une copie qui ne peut pas circuler habituellement. Les questions de droit sont réglées depuis très peu de temps. Donc là, c'est quasiment, une redécouverte pour beaucoup de gens. Donc le voir en salle, c'est merveilleux. Et oui, ça permet en festival de voir la cohérence de cette œuvre-là, de voir son évolution aussi, évidemment. Mais quand on compare les films les uns après les autres, on peut sentir toute la cohérence de cette œuvre-là. Et là, le public a une vraie chance. Et en plus, les films sont accompagnés par Ruy Noguera qui les présente tous, qui est quelqu'un qui a fait quand même l'un des plus beaux livres de cinéma avec Melville, un livre d'entretien qui rivalise pour moi très largement avec le Hitchcock Truffaut qu'on connaît tous, et d'avoir en plus ce regard-là et cet apport-là avant chaque film, ça c'est une chance pour le public. Donc évidemment, voir les films de Melville en festival, c'est une très très belle opportunité.
C'était le réalisateur Olivier Boller sur Radio Prague. Comme chaque lundi, place maintenant à l'actualité sportive. À un peu moins de 3 semaines désormais de l'ouverture des Jeux Olympiques de Londres, lors de laquelle le joueur de badminton guéri d'un cancer, Petr Koukal, sera le porte-drapeau tchèque. Les lanceurs de javelot Barbora Špotáková et Vítězslav Veselý font partie des principales chances de médaille tchèque. Tous les deux ont pour point commun d'être entraînés par Jan Železný. Et tous les deux rêvent d'imiter leur mentor, lui-même ancien triple champion olympique, Guillaume Narguet.
Sport en République tchèque.
Et si les deux prochains champions olympiques du lancer du javelot étaient tchèques? Si elle peut paraître osée, la question mérite néanmoins d'être posée. En effet, tandis que Barbora Špotáková chez les femmes défendra aux Jeux de Londres son titre acquis à Pékin il y a 4 ans, Vítězslav Veselý, récemment sacré champion d'Europe à Helsinki, leader du classement général de la Ligue de Diamants et détenteur de la meilleure performance mondiale de l'année avec 88,11 m, record personnel, fera lui aussi partie des principaux prétendants à la médaille d'or chez les hommes. Chacun de leur côté, Barbora Špotáková et Vítězslav Veselý marchent sur les traces de Jan Železný, leur légendaire entraîneur dans leur club du Dukla de Prague. Triple champion olympique et triple champion du monde, Jan Železný n'a toutefois, presque paradoxalement, jamais été sacré champion d'Europe, le titre continental étant le seul titre qui manque à son interminable palmarès. C'est donc à travers le succès de son poulain que le meilleur lanceur de javelot de l'histoire de l'athlétisme est en somme devenu champion d'Europe. C'est d'ailleurs d'abord à son entraîneur que Vítězslav Veselý, la médaille autour du cou, a dédié sa victoire à sa descente du podium à Helsinki.
Je suis content qu'il puisse avoir la médaille d'or dans les mains aussi comme entraîneur. Cela récompense son travail de titan. Ce n'était pas seulement un excellent compétiteur. Jan est aussi un super entraîneur, selon moi, le meilleur. Cette médaille, je ne vais pas l'exposer, je pourrais donc lui offrir. Mais tel que je le connais, je suis sûr qu'il ne l'accepterait pas. Pourtant, il mériterait que je la lui passe autour du cou.
Vainqueur à Shanghai et à Oslo de 2 meetings de la Ligue de Diamants depuis le début de saison, Vítězslav Veselý comptait parmi les favoris du concours d'Helsinki. Un concours qui, à l'exception du champion du monde en titre allemand, Matthias Desordo, forfait pour blessure, réunissait ce qui se fait de mieux actuellement au monde en matière de lancer du javelot. Vainqueur avec un lancer à 83,72 m à son deuxième essai, Vítězslav Veselý, qualifié d'extrême justesse pour la finale, a devancé de 49 cm le russe Valérie Jordan. Mais à l'issue du concours, le premier athlète tchèque a remporté une médaille d'or dans un grand championnat. Depuis le titre olympique de Barbora Špotáková à Pékin en 2008, était donc d'abord soulagé d'avoir tenu son rôle de favori.
C'est un vrai soulagement d'avoir répondu aux attentes, même si ça n'a pas été simple. Il a fallu batailler jusqu'au bout. Ce n'était pas un concours où tout se passe bien du début à la fin et dont on profite pleinement, sans se stresser. Je suis donc très satisfait de cette victoire et il ne me reste plus qu'à aller la fêter.
Fêter Vítězslav Veselý l'a sans doute fait avec une certaine réserve inévitable compte tenu de la grande échéance londonienne qui approche. Et ces célébrations mesurées n'ont en tous les cas pas étanché sa soif de succès, comme l'a démontré sa performance au Stade de France vendredi soir dernier. 8 jours après l'obtention de son titre européen, le Tchèque s'est en effet classé 2e du concours du meeting de Saint-Denis comptant pour la Ligue de Diamants. Avec un G à 83,93 m à son dernier essai, Vítězslav Veselý a été devancé par l'Ukrainien Oleksandr Piatnitsia, auteur lui de 85,67 m. Cette deuxième place permet à Vítězslav Veselý de conserver la tête du classement général de la Ligue de Diamants, compétition annuelle composée d'une série de 14 meetings. Un élément de satisfaction à l'en croire suffisant pour le Tchèque.
Je suis content du déroulement du concours et surtout de son issue. J'ai réussi à décrocher cette deuxième place en m'accrochant et grâce à mes 2 derniers lancers. Mes premiers essais n'étaient vraiment pas bons techniquement, mais je n'ai pas cessé de croire que je pouvais m'améliorer. Je savais que j'en avais les moyens aujourd'hui. Même si ma performance n'a au bout du compte rien d'extraordinaire, elle me permet quand même d'engranger des points au classement de la Ligue de Diamants.
Si Vítězslav Veselý a donc été très en vue ces deux dernières semaines, c'est nettement moins le cas de sa partenaire d'entraînement, Barbora Špotáková. Depuis l'obtention de son 9e titre national début juin, la championne olympique en titre et record woman du monde a choisi de poursuivre sa préparation à l'écart, le plus loin possible des projecteurs. L'athlète tchèque la plus célèbre et la plus médiatisée n'a donc pas participé au championnat d'Europe, comme en a décidé son entraîneur. Et paradoxalement, c'est justement parce qu'elle est la meilleure athlète tchèque actuelle que Jan Železný a préféré ne pas envoyer Barbora Špotáková à Helsinki. Jan Železný explique pourquoi.
Si c'était une autre athlète, ce serait autre chose. Mais Barbora a vraiment un poids sur les épaules. Tout le monde attend des résultats et des podiums de sa part. Et être soumis à cette pression deux fois par an, surtout en un espace de temps si réduit, ce n'est pas évident. Ce n'est pas seulement une question de performance ou une question psychologique. C'est aussi une question de fatigue. Si elle participait au championnat d'Europe, peut-être gagnerait-elle ou obtiendrait-elle une médaille, mais elle serait fatiguée mentalement. Or moi, j'ai besoin qu'elle ait du jus et de l'envie en prévision des Jeux Olympiques.
Cette décision de Jan Železný, Barbora Špotáková l'a elle-même accueillie avec un certain soulagement. Car plus l'ouverture des Jeux Olympiques approche, plus la Tchèque ressent le poids des attentes placées en elle. Et comme elle l'avoue, ce n'est parfois pas sans mal qu'elle gère ce stress quotidien.
Il n'y a pas que l'attention médiatique, c'est tout un ensemble. Les Jeux Olympiques sont tellement médiatisés que les gens m'interpellent sans cesse. Je ne sais si vous pouvez vous en rendre compte, mais c'est vraiment à chaque pas. Par exemple, si je me lave les mains aux toilettes dans une station-service, il y aura toujours quelqu'un à côté pour me souhaiter bonne chance. Ça se passe sans arrêt et vraiment partout, quoi que je fasse. Bien sûr que ça fait plaisir, mais quand on vous souhaite bonne chance 50 fois dans la journée, vous avez parfois le sentiment d'être toujours surveillé. Je n'arrive presque à avoir une phobie des gens.
D'ici à la tenue du concours féminin du lancer du javelot à Londres, nul doute que l'attention portée à la préparation de Barbora Špotáková, une des plus grandes chances de médaille olympique pour la République tchèque, va encore se renforcer. Mais si elle et Vítězslav Veselý parviennent à gérer cette formidable attente et effectivement à monter sur la première marche du podium, ils écriront alors ensemble, à la suite de leur entraîneur Jan Železný, assurément une des plus belles pages de l'histoire du sport tchèque. Une belle histoire, c'est aussi celle du joueur de badminton, Petr Koukal. 2 ans après que lui ait été diagnostiqué un cancer des testicules, un cancer dont il est parvenu à se soigner avant de reprendre la compétition, Petr Koukal a en effet appris qu'il serait le porte-drapeau de la sélection tchèque lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques le 27 juillet prochain. La décision a été annoncée la semaine dernière par le président du comité olympique tchèque, Milan Hrášek. Celui-ci explique les raisons du choix symbolique de Petr Koukal.
Dans ce cas précis, c'est une forme de récompense pour son courageux combat contre la maladie et pour la vaillance avec laquelle il est revenu au sport de haut niveau, pour tous les sacrifices qu'il faut faire pour cela. Je pense que l'histoire de Petr Koukal peut être une source d'inspiration, pas uniquement pour les sportifs, mais aussi pour beaucoup de gens qui se trouvent dans une situation similaire à la sienne, confrontés à une maladie ou à des problèmes d'autre nature. Je pense qu'il peut leur servir d'exemple.
D'ici à l'ouverture des Jeux Olympiques, nous vous proposerons un portrait plus approfondi de Petr Koukal, qui tourne actuellement un documentaire sur son histoire et son parcours. Et comme il l'a lui-même annoncé, ce sont précisément les images le montrant comme porte-drapeau dans le stade olympique de Londres qui constitueront le happy end à l'américaine de ce film.
C'est par cette rubrique sportive que s'achève le programme de Radio Prague en français. Magdalena Hrozinková au micro vous remercie de votre attention. À très bientôt sur Radio Prague. Au revoir.